Donc Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ton esprit qui est déversé sur nous. Merci parce que tu nous aimes petits et grands et tu nous invites à avoir un cœur rempli de foi. Jésus, ce matin, nous recevons de toi, de ton esprit, ce que tu voudras bien nous dire par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nouvelle série ce matin, une série qui s'intitule « Jeûne de foi », les leçons qui nous forment. Nous allons parler de jeunes dans la Bible, adolescents ou enfants, qui ont vraiment été au service de Dieu, qui étaient d'ores et déjà des disciples de Dieu, donc des gens qui voulaient suivre Dieu. Et puis, ce matin, si vous êtes un enfant, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être un adulte. Hein? Si vous êtes un adolescent, la vie ne commence pas quand on est un adulte. Ce que vous apprenez aujourd'hui avec Jésus peut faire une différence dans toute votre vie. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont vous servir. Ce que vous apprenez à l'Église, ce que vous apprenez peut-être de vos parents qui marchent avec Jésus ou de d'autres adultes importants dans votre vie, eh bien, c'est important pour Dieu et c'est important pour vous aussi. Si vous êtes adulte, j'espère aussi qu'à travers cette série, vous serez inspiré de la foi d'hommes et de femmes dans la Bible qui n'ont pas attendu d'être grands pour suivre Dieu, pour lui obéir. Et j'espère aussi que ce sera peut-être une opportunité pour vous de regarder un peu en arrière et de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as enseigné dans mon adolescence ou dans mon enfance qui peut m'être utile aujourd'hui? On apprend des belles choses qui nous arrivent et on apprend également des choses un peu plus difficiles. Et donc, ce matin, mon message porte de manière plus spécifique sur les difficultés de notre jeunesse. Ce que j'espère qu'on va retenir ce matin ensemble, c'est que les difficultés qu'on vit dans l'enfance, dans l'adolescence, eh bien, elles ne limitent pas notre futur. Elles ne sont pas des limitations pour Dieu parce que Dieu peut nous utiliser même avec les difficultés qu'on a vécues. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Est-ce qu'il y a des enfants qui reconnaissent qui est le monsieur qu'on voit là sur l'écran, jeune et vieux? Est-ce qu'il y a des enfants ou des adolescents qui pourraient me dire, selon vous, là, c'est quel personnage de la Bible qu'on voit là? J'ai entendu David et c'est correct. Effectivement, on va parler ce matin de David. L'histoire de David lorsqu'il est jeune et l'histoire de David, hein, comment ça l'a influencé le genre d'homme qu'il est devenu une fois qu'il était adulte. Et effectivement, David a vécu des difficultés. Regardons un peu qu'est-ce que la parole de Dieu nous en dit. Et là, c'est le fun, ce matin, on va regarder le verset, le passage biblique, mais de manière différente. Donc, on va utiliser la Bible en bande dessinée. C'est le même texte, mais en bande dessinée. Donc, si vous êtes assis à l'arrière, peut-être vous allez vouloir vous retourner si vous avez besoin de lire, car l'écran est un peu plus grand derrière. Mais peut-être que certains d'entre vous sont capables de lire. Je vais le lire pour nous. Donc, 1 Samuel 17 nous dit ceci. On répéta à David ce qui était promis. Alors, David va visiter ses frères qui sont sur le champ de bataille à la demande de son père pour lui ramener à manger. Et voici ce que David apprend des soldats. Il sera immensément riche et le roi lui donnera sa fille. Donc, c'est ça qui va arriver à celui qui va tuer Goliath, le méchant, l'ennemi du peuple d'Israël, qui est en train de se moquer de Dieu et qui est en train de se moquer du peuple de David. Et donc, le grand frère de David, c'était le plus jeune de 8 garçons. Hein? Et pour être dans l'armée, il fallait avoir au moins 20 ans. Et donc, son frère le plus grand, ses trois plus grands frères étaient déjà dans l'armée, mais David, lui, n'était pas encore dans l'armée. Donc, on peut se douter que David n'était pas très vieux à ce moment-là. Et son grand frère Eliab l'entendit poser cette question-là et il se mit en colère. Il lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos moutons? Je te connais bien, petit prétentieux. Je sais quelles intentions mauvaises tu as dans ton cœur. » Tu n'es venu que pour voir la bataille. Et la Bible nous dit que David répond ainsi, il dit, « Hey, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai plus le droit de parler maintenant? » Et donc, comme vous voyez ici, David se fait un peu intimider par son grand frère. Hein? Ça fait partie des difficultés de sa jeunesse. Il se fait regarder de haut par ses grands frères et on lui prête de mauvaises intentions. Plus tard, la Bible nous raconte ceci par rapport à David. Et là, c'est le chapitre suivant dans 1 Samuel. Je pense que j'ai un problème de télécommande. Peut-être la batterie est morte, je ne sais pas. Ah, ça a marché là. OK, super, merci. Donc, chaque fois que Saül l'envoyait en expédition, David réussissait toutes sortes de choses que le roi lui confiait quand il confiait ses troupes. Donc, on sait, hein, David a vaincu Goliath, et lorsqu'il a vaincu Goliath, le roi Saül ne l'a pas laissé retourner chez lui. Il a dit, viens hein, dans le palais avec moi, tu vas pouvoir jouer de la musique, ça va me détendre. Et il lui dit, je vais te confier des soldats aussi, tu vas continuer avec mes armées. Mais qu'est-ce qui se passe là? Le peuple hein, commence à l'estimer. La Bible nous dit qu'il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Donc, ce n'est pas juste les gens dans le peuple qui disent « Wow, David! » C'est aussi même le bras droit du roi, les bras droits, hein, ses conseillers, ses gens d'influence, les politiciens qui sont autour de lui, si on pourrait dire ça en termes modernes, qui disent « Wow, David! » Et la Bible dit « À leur retour, les femmes chantèrent, dansant au son des tambourins. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » La Bible nous dit que Saül le prit très mal. Hein, il dit « À moi 1000, à David 10 000. » Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ils vont lui donner la royauté? Il va devenir roi à ma place? Hein, la jalousie! Et puis, dès le lendemain, nous dit la Bible, hein, Saül, possédé par un esprit mauvais, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa lance et il essaye de le clouer au mur. Donc, il essaye de le tuer. La Bible nous dit que David va réussir à esquiver son coup deux fois, mais que la peur de Saül de perdre ce qui est à lui et continue de grandir. En voulez-vous des difficultés? En voilà d'autres dans la vie de David. Non seulement il est victime hein, de l'intimidation de son grand frère, mais il est également victime de la jalousie hein, d'un homme beaucoup plus âgé que lui, qui a beaucoup plus d'influence et de pouvoir, et même de tentatives de meurtre. Je ne sais pas quel genre de difficultés vous avez vécu dans votre vie, dans votre jeunesse, mais pour plusieurs d'entre nous, hein, il peut y avoir un peu de ça. Peut-être pas la tentative de meurtre, mais parfois la jalousie, l'intimidation, c'est des choses qui arrivent quand même souvent. Hein? Et Dieu n'est pas pris au dépourvu par ces difficultés-là. Il est quand même capable de nous bénir malgré ces difficultés-là. Donc, on fait un petit quiz ce matin, encore une fois, pour les ados et les adolescents. Je veux savoir si vous écoutez à l'école du dimanche d'habitude. Donc, est-ce que vous savez pourquoi Saül est injuste avec David? Vous pouvez lever la main, les ados. Avez-vous des idées? Les enfants, est-ce qu'on sait pourquoi? Oui? Parce qu'il est jaloux, effectivement. Mais pourquoi il est jaloux? Effectivement, parce qu'il a beaucoup d'influence, il a peur de perdre sa place. La Bible va un petit peu plus loin. Elle nous dit que Saül est jaloux parce que Dieu est avec David. Et Saül ne voit plus la bénédiction de Dieu dans sa vie. Mais pourquoi il ne voit plus la bénédiction de Dieu? C'est parce que Saül a choisi d'être désobéissant à Dieu. Dieu n'a pas décidé de dire à Saül, « Ah, Saül, je ne t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre. » Mais Saül vit les conséquences de ses actes. Hein, parfois, ça nous arrive, nous aussi, dans notre vie. On prend des mauvaises décisions et là, on vit des conséquences négatives et on peut être en colère contre Dieu ou même on peut être jaloux de gens qui vivent des belles choses dans leur vie parce qu'ils sont restés obéissants à Dieu. Et c'est ce qui se passe avec Saül. Ça n'aurait pas dû être sa réaction. Malheureusement, c'est sa réaction. Plutôt que de dire « Hey, je vais demander pardon à Dieu, je vais retourner vers Dieu », il se met en colère et il décide de blâmer David. La Bible nous dit aussi qu'il est jaloux parce que sa fille, Michal, elle aime David et elle le protège. Il est jaloux aussi parce que son garçon, Jonathan, devient le meilleur ami de David et lui aussi, il l'aime et il veut le protéger. Il est jaloux parce que le peuple aime David et le célèbre. Et il est jaloux aussi parce que David a du succès dans son travail militaire. Alors, selon vous, est-ce que les enfants, il y a une bonne raison là-dedans pour être injustes? Non! Il n'y a pas de bonne raison pour faire du mal à David. On est appelé à célébrer, hein? On est appelé à célébrer les victoires des autres aussi. On est appelé à être content quand ça va bien pour les autres. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui a des limites, hein? S'il bénit une personne, ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus de bénédiction pour moi. Dieu a assez de bénédictions pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose que comme enfant, comme adolescent et même comme adulte, on doit se souvenir. Les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées. Dieu en a assez pour tout le monde. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Lorsqu'on lit l'histoire du prophète Samuel, la Bible nous dit que celui qui honore Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il l'honore. Alors, Dieu n'est pas limité dans ses bénédictions pour nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être traité injustement? Là, je vais demander aux adultes de lever leurs mains. Si on vous a déjà traité injustement, vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi. Faites juste lever votre main pour que les adolescents et les enfants vous voient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Regardez les enfants et les adolescents. Ça arrive quand même souvent qu'on soit traité injustement, n'est-ce pas? Et il y a effectivement des différentes sortes d'injustices. Hein? Il y a des injustices qui sont liées hein, à des personnes qui font le mal, donc qui désobéissent à Dieu, ou qui font des erreurs. Ça peut arriver. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être punie pour quelque chose que je n'avais pas fait, parce qu'un parent pensait que c'était moi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi. Parfois, on vit des choses difficiles, des déceptions, parce que quelqu'un prend une mauvaise décision. Ça m'est arrivé aussi, et probablement que ça vous est arrivé aussi à d'autres adultes dans l'Église. Hein? Quelqu'un commet un péché et ça a un impact sur nous. C'est pas juste, mais c'est des choses qui arrivent. Et il y a évidemment des injustices qui sont liées à des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Hein? Par exemple, un tremblement de terre, un ouragan. Mes parents, ils aiment Dieu, ils ont cherché du travail, mais ils n'ont pas trouvé un travail qui était très payant. Donc, je peux peut-être avoir moins de jouets ou moins de choses que les autres, mais ce n'est pas parce que mes parents ne m'aiment pas et ce n'est pas parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Donc, ces choses-là arrivent et ça fait partie de la vie. C'est arrivé aussi à un petit garçon. Un petit garçon dans les années 1894. Donc, ça fait très longtemps, hein? Ça fait plus qu'un siècle. Et puis, ce petit garçon-là s'appelait William Cooper. William, comme on le voit sur la première photo, son petit frère, il naît et sa maman meurt quand il a 5 ans. Ensuite, son papa l'envoie dans une école lorsqu'il a 6 ans parce qu'il n'est pas vraiment capable de s'occuper de son petit garçon et de son petit frère. Et donc, à 6 ans, il se retrouve complètement séparé de sa famille. Et il se passe quelque chose de pas très drôle. Pendant qu'il est couché, il y a un adolescent de 15 ans qui vient à toutes les nuits pour lui faire du mal. Et il a très peur. Mais je vais vous dire une chose. William, avant d'arriver à cette école-là à 6 ans, il avait appris de son papa et de sa maman qu'il pouvait se confier à Dieu dans la prière. Et c'est ce qu'il fait dès l'âge de 6 ans. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu le privilège de connaître Jésus quand vous étiez tout petit et de prier? Est-ce qu'il y a des enfants qui prient parfois? Ou des adolescents? Oui? Super! Et c'est un bon réflexe pour nous. C'est une bonne chose d'apprendre déjà de notre plus jeune âge à prier et à partager nos difficultés avec Jésus. Parce que ça nous amène à prendre les bonnes décisions. C'est ce que David a fait, hein? Il a été traité injustement par ses frères et par Saül pendant qu'il était jeune. Mais lorsqu'il est devenu grand, comme on voyait sur la première image, lorsqu'on l'a mis la couronne sur sa tête, maintenant c'était un adulte. Qu'est-ce que David a fait quand son fils était injuste envers lui? Est-ce que lui, il a été injuste? Non. Il n'a pas reproduit l'injustice envers son fils parce qu'il avait appris, lorsqu'il était petit, à se confier à Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée pour William Cooper. Lorsqu'il était enfant, il s'est confié à Dieu. Et plus tard dans sa vie, cet homme-là, il a grandi. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'esclavage. Donc, vous savez, les gens, par exemple, de pays comme l'Angleterre ou d'autres pays comme ça, ils allaient prendre des gens en Afrique et ils les amenaient de force pour faire un travail qui n'était pas payé. Ils leur ont fait beaucoup de mal aux gens. Alors, lui, William, c'était un petit garçon qui était blanc, donc il n'était pas d'origine africaine, mais il a connu les injustices. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il était grand? Il a commencé à écrire pour dénoncer ce genre de choses-là. Il a commencé à dire, « Hey, les gens, ça, c'est injuste. Il faut arrêter ce genre de choses-là parce que ça ne marche pas avec la parole de Dieu. » La parole de Dieu ne nous dit pas de faire du mal comme ça. Donc, il a pris l'injustice qu'il a vécue et il l'a transformée pour lui combattre l'injustice. Et c'est ce qu'on peut faire, nous aussi, comme enfants, comme adolescents et même comme adultes. Parce qu'on continue de vivre des injustices comme adultes. Et lorsqu'on vit ces choses, on a une décision à prendre. Est-ce que je vais laisser ces difficultés-là faire de moi une personne amère, faire de moi une personne qui, lorsqu'elle aura l'opportunité, ben moi, je vais utiliser la force pour me rendre justice. Ou est-ce que je vais me confier en Dieu et je vais utiliser ma force pour aider les autres à goûter à la justice? Dieu nous appelle à prendre une décision. Ce matin, après la prédication, on va dédier un enfant au Seigneur, Dan, qui est le fils de Malberly et de Robinson. Et ce petit bébé-là de 3 mois, eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va vivre en grandissant. Peut-être qu'il va faire face à des injustices lui aussi. Nous-mêmes, on ne sait pas quel genre d'injustice on peut faire face dans le futur. Mais on peut mettre déjà notre espoir en Dieu. Pour nous, on peut prier pour nos enfants, pour nos adolescents aussi, que dès leur plus jeune âge, ils sachent se confier en Dieu malgré les difficultés de leur jeunesse. Et nous pouvons être un modèle pour eux également. Nous-mêmes, être des modèles de qu'est-ce que ça veut dire, faire face à l'injustice et être victorieux du mal par le bien. Église, c'est notre appel. Et donc, il faut se confier à Dieu et aider les autres. Nous voyons que David le fait dans les psaumes. Peut-être vous aurez déjà lu les psaumes. J'espère que vous l'avez fait. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez fait, ce sont vraiment des beaux textes. Et David en a écrit au moins 73. Et il nous parle d'injustice dans environ 30 à 35 de ces psaumes-là. C'est le thème principal. Dieu, ce n'est pas juste. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. Je ne sais pas comment faire face à ça. Des injustices, on en vit. Mais David se confie à Dieu et il devient un modèle pour les autres parce qu'aujourd'hui, quand nous, on lit ces textes-là, on dit « OK, c'est comme ça que je dois prier. OK, c'est comme ça que Dieu est venu au secours de David. Donc, c'est le même Dieu que je sers qui viendra aussi à mon secours. Je peux lui faire confiance. » Si vous voulez commencer quelque part, faites une note mentale, le psaume 37 est un très bon départ pour faire face à ces choses-là et apprendre comment réagir en injustice. C'est aussi ce que William va faire. Dans son enfance, il prend appui sur le psaume 56 de David. Il fait exactement ce que je vous ai dit qu'on peut faire avec les psaumes. Et dès son enfance, il croit que Dieu peut lui faire du bien. Et il prend appui sur ce verset qui dit, « Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? » Pendant 2 ans, cet enfant prie et un jour, il reçoit justice. Amen. Dieu est là. Parfois, on prie longtemps. Parfois, on est tenté. La tentation qu'on a, c'est de se décourager, de dire « Ces difficultés-là, elles ne vont jamais finir. » Dieu ne m'entend pas, mais ça, c'est une tentation du diable. Dieu nous invite à continuer dans la prière, à continuer dans la confiance et à ne pas laisser l'ennemi de nos âmes détruire notre cœur, détruire notre fidélité à Dieu à cause des difficultés. Mais plutôt, utilisons ces choses, laissons Dieu, le Saint-Esprit, utiliser ces choses pour nous fortifier. William Cooper n'a pas seulement lutté contre l'injustice de l'esclavage, il a aussi lutté contre le colonialisme, donc le fait que les pays riches, ils allaient par exemple en Afrique pour aller prendre leurs ressources. Il a aussi lutté contre ce qui se faisait aux peuples autochtones, ici en Amérique du Nord. Mais il a aussi publié des hymnes, donc des chants chrétiens, 68 chants chrétiens qu'il a publiés, qui ont servi dans les églises en Angleterre pendant longtemps pour aider les gens à se rapprocher de Dieu. Et je vais vous dire un secret. William Cooper, on peut entendre toutes ces belles choses-là et dire « Wow, c'était un grand homme de Dieu », mais je vais vous dire quelque chose. William Cooper a lutté avec la dépression toute sa vie. À beaucoup de moments, il y a eu des moments où il se disait « Dieu m'a abandonné ». Alors, parfois, ces héros-là de la foi, on peut penser « Ah, il y a une certaine catégorie de chrétiens. Eux, ils sont spéciaux, eux, ils sont forts. » Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et ce n'est pas non plus ce que l'histoire de l'Église nous enseigne. L'histoire de l'Église, la Bible nous enseigne que les hommes et les femmes de Dieu qui sont fidèles à Dieu, c'est ceux qui persévèrent dans les difficultés. Et c'est ce qu'il faut apprendre dès notre enfance, dès notre adolescence. Persévère, c'est ça qui va faire la différence. Pas que tu aies été dépressif, pas que tu aies été suicidaire, pas que tu aies fait des erreurs de parcours. Ce qui va faire la différence, c'est que tu es resté accroché à Dieu et lorsque tu as pris un mauvais chemin, tu es revenu sur le bon chemin. Amen. Frères et sœurs, William a été tellement dépressif qu'à certains moments, il a voulu sauter la vie. Mais il a continué à retourner vers Dieu. Et il a laissé des frères et des sœurs de l'Église l'encourager, le prendre sous leur aile. Peut-être vous vivez des difficultés comme enfant, comme adolescent, comme adulte, et vous dites « Moi, je n'ai pas la force ». Jésus peut vous donner la force. Oui, à travers la prière, oui, à travers la lecture des Écritures, mais on a besoin de l'Église, on a besoin les uns des autres. Il n'y a pas un homme ou une femme de Dieu qui peut dire, moi, par mes propres forces, je vais y arriver. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu l'Église. Il nous a mis dans une famille. Il nous appelle ses enfants. L'Église, c'est une famille. Donc, dans vos difficultés, cherchez l'encouragement. Dans vos temps forts, donnez l'encouragement. Et je vais même aller plus loin, peut-être vous êtes découragé, mais peut-être vous êtes même capable d'encourager les autres. Laissez Dieu vous utiliser. Permettez au Saint-Esprit de vous inviter dans la famille de Dieu. Laissez-vous faire partie de cette famille. Dieu vous aime, il a un plan pour vous. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains. Ne rendez à personne le mal pour le mal. On le voit sur l'image, c'est le jeune David qui voit Saül dans la grotte et il a l'opportunité de le tuer. Hey, c'est pas comme s'il voulait pas le tuer, lui. Il a essayé à plusieurs reprises, Saül, de le tuer. Il le pourchasse pour lui faire du mal. Mais qu'est-ce que David fait? Il lui rend pas le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien, nous dira ce passage. David, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de son vêtement et lui montre, « Regarde, j'avais l'opportunité de te tuer et je ne l'ai pas fait. » C'est important que tu saches que je ne t'ai pas rendu l'injustice pour l'injustice. La Bible dira ceci aussi, elle dit, « Vivez en paix avec tous, tant que cela dépend de vous. » Donc, je dois mettre tous mes efforts, non pas à répondre au conflit, mais à amener la paix dans les relations. À faire le bien. Si moi, je réponds au mal par le mal, eh bien, je donne à l'autre une raison de me refaire du mal encore. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Évidemment, autant que possible, on sait que Saül, malheureusement, il n'y aura pas de changement définitif. Par moment, qu'est-ce qui arrive? Et c'est comme des charbons brûlants sur sa tête, hein? Comme nous dira le passage de Romains. C'est des charbons brûlants sur sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh non, il était correct, c'est bon, je vais arrêter de vouloir te faire du mal, David. Mais il y a un petit temps qui passe, la jalousie revient et il recommence dans son mauvais comportement. La Bible nous dit, vivez avec tous dans la paix tant que cela dépend de vous. Elle nous dit ceci aussi, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Peut-être tu es en colère contre l'injustice que tu vis ou tu as vécu, et c'est correct d'être en colère, c'est même normal d'être en colère. Mais sais-tu quoi? Dieu aussi est en colère. Dieu peut-être même est encore plus en colère contre le péché que toi. Laisse-le faire justice. Tu vas voir, Dieu est pas mal meilleur que tu peux l'être. Laisse Dieu faire justice. Lui seul qui connaît les motifs du cœur. Nous avons cette espérance comme chrétiens que Dieu fera justice. À moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, nous dit le Seigneur dans ce verset. Mais nous dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. En d'autres mots, tu vas faire travailler sa conscience. J'ai un jour été confrontée à une personne et je me disais, cette personne-là, vraiment, elle n'a pas de conscience. Tellement méchante. Tellement méchante. Et je dis, Seigneur, j'ai de la misère à comprendre. J'ai de la misère à comprendre que la personne, elle ne peut pas démontrer de culpabilité par rapport à ce qu'elle a fait. Et alors que j'étais en prière, il s'est passé quelque chose. J'ai eu une rencontre avec la personne qui n'était vraiment pas planifiée à 3 heures du matin. Et j'ai connu cette personne-là à 3 heures du matin. Laissez-moi vous dire que la personne que j'ai rencontrée à 3 heures du matin n'était pas la même personne que j'ai rencontrée tous les autres jours. Tout d'un coup, il y avait tellement le fardeau de la culpabilité qui ressortait. Frères et sœurs, laissons à Dieu le soin de juger chaque personne et ne méprisons pas nos gestes de fidélité à Dieu, de faire le bien plutôt que le mal, parce que même si vous croyez que quelqu'un n'a pas de conscience, hein, et qu'il est fondamentalement méchant, laissez le Saint-Esprit faire son travail. C'est pas parce que vous le voyez pas qu'il n'y a pas de travail qui se fait. La parole de Dieu conclura en disant ceci, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Comme le jeune David, hein, qui est vainqueur du mal par le bien sur l'image. Ça peut continuer à faire mal longtemps, les injustices qu'on vit. On n'est pas naïf dans l'Église. On ne veut pas minimiser la souffrance que les gens vivent à cause des injustices qu'ils ont vécues, parfois longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut continuer à crier à Dieu. Oui, David a continué à souffrir longtemps des injustices qu'il a vécues comme enfant et adolescent. Oui, William Cooper, comme on l'en parlait, il a continué à lutter avec la tristesse, la dépression de ces choses qu'il avait vécues. Mais leur tristesse ne les a pas empêchés d'être des héros de la foi. Ils ont laissé derrière eux un héritage spirituel vraiment très riche, n'est-ce pas? La foi de leur jeunesse qu'ils ont appris à compter sur Dieu, ça les a aidés à faire face à d'autres injustices par la suite. Leurs muscles spirituels, ils n'ont pas commencé à les entraîner à l'âge adulte. Ils ont commencé dès l'enfance, dès l'adolescence. Leur fidélité à Dieu s'est démontrée comment? Par leur refus de rendre le mal pour le mal. Et il s'est passé quelque chose aussi. Il s'est passé ce qu'on appelle la compassion. La capacité à ressentir la souffrance de l'autre. Frères et sœurs, si vous écrasez à l'intérieur de vos cœurs la souffrance plutôt que de prier à Dieu, plutôt que de demander à Dieu de vous guérir, eh bien, votre cœur, il va devenir dur. Et ça va être difficile de comprendre la souffrance d'autrui. Donc, n'ayez pas peur de venir à Dieu. N'ayez pas peur de vous présenter devant Dieu avec ces choses difficiles que vous vivez. Un jour, deux jours, trois jours, il ne se fatigue pas d'entendre ses enfants crier à lui. Il ne se fatigue pas de nos prières. Alors, venez à Dieu sans hésiter. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, Un jour, j'avais demandé à une femme, à mon pasteur à l'église, je lui ai dit, j'aimerais ça qu'une femme puisse vraiment comme faire de moi un disciple de Jésus plus approfondi. J'aimerais ça avoir du mentorat d'une femme. Et donc, le pasteur me réfère à une femme qui est d'accord pour faire ce genre de travail-là. C'était une dame qui avait environ 70 ans. Et à ma grande surprise, lorsque je me présente chez cette dame-là et qu'on commence à discuter, c'est elle qui commence à me parler de ses difficultés. Et tout d'un coup, elle me parle de quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 3 ans. Et elle pleure. Elle pleure comme un bébé, là. Et moi, tout d'un coup, je suis un peu saisie et je me dis, est-ce que ça va être comme ça pour moi quand je vais être adulte? Est-ce que je vais continuer à pleurer sur les mêmes blessures que lorsque j'étais enfant? Je ne sais pas. Il y a des choses que Dieu guérit et on lutte pour la guérison dans la prière. Et il y a des choses qui vont rester sensibles dans notre cœur, peut-être longtemps. Peut-être que c'est seulement dans l'éternité qu'on sera 100% guéri de certaines choses. Mes frères et sœurs, Jésus est assez puissant pour vous soutenir dans vos douleurs pour toute votre vie. Jésus est assez puissant pour vous aider à demeurer fidèle, indépendamment du niveau de guérison que vous allez avoir atteint ici-bas. Il y a quelque chose de mystérieux dans la guérison. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire pour nous-mêmes. On doit dépendre de Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa guérison. Nous, on persévère dans la prière. Peut-être on fait ce que la parole de Dieu nous invite à faire. On confesse les uns aux autres. On avance avec le Seigneur. On fait des processus peut-être d'accompagnement avec un pasteur ou d'autres gens dans l'Église qui sont formés pour ça. On recherche la guérison de tout notre cœur. Mais finalement, on dépend de Dieu. Et Dieu est capable de nous aider à avancer malgré la souffrance. Dieu n'est pas limité par notre souffrance. Il n'est pas limité par nos difficultés. Dieu est un Dieu plus grand que nos difficultés, plus grand que nos souffrances. Et parfois, le sentiment, parfois nos sentiments ne nous disent pas la vérité. Dieu veut qu'on voit au-delà de notre souffrance. Peut-être que tu te sens inutile ce matin. Peut-être que tu dis, ma vie, elle a été démolie par ce qu'on m'a fait. Il n'y a pas possibilité pour moi d'être restaurée. Je ne suis pas réchappable. Je suis indigne pour toujours. Ce que j'ai fait, c'est trop gros. Ce qu'on m'a fait, c'est trop gros. Je vais toujours rester comme ça. Dieu t'invite à voir au-delà de ça. Dieu n'a pas de membres inutiles dans l'Église. Dieu n'a pas de personne qui est trop indigne. Dieu est plus puissant que ta souffrance. Les injustices que tu as vécues ou que tu vis comme jeune, ce n'est pas des handicaps. Ce n'est pas des choses qui vont te limiter pour toujours. C'est des expériences que Dieu va utiliser pour bénir les autres, pour t'enseigner à compter sur lui, pour faire de toi une personne engagée dans la justice et qui défend aussi les autres qui sont victimes d'injustice. Tu peux te sentir limité, mais devant Dieu, tu es riche de potentiel. Amen. Alors, avant qu'on procède à la présentation de Dan, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps juste pour inviter Jésus à nous parler par rapport à ces difficultés-là qu'on vit ou qu'on a vécues dans notre jeunesse ou dans notre adolescence. Même les enfants, si vous voulez, vous pouvez prier dans votre cœur à Jésus. Alors, Seigneur, nous voulons nous remettre à toi. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, Seigneur, il est devant toi. Rien n'est caché devant tes yeux. Alors, Seigneur, que nous avons pris ce moment de communion ensemble, alors que nous approchons de toi en ce moment, Seigneur, nous voulons nous repentir de toute rancune dans nos cœurs, de tout désir de rendre le mal pour le mal. Seigneur, ces gens qui nous ont fait souffrir, ces gens qui ont été foncièrement injustes avec nous alors qu'on était tout petits, alors qu'on était adolescents, alors qu'on était sans défense, Seigneur, tu les connais. Seigneur, tu es bien meilleur que tout gouvernement pour rendre la justice. Tu es meilleur que tout policier pour rendre la justice. Tu es meilleur, Seigneur, que nous-mêmes pour rendre la justice. Donc, Seigneur, on te les remet, Seigneur. On choisit, Seigneur Dieu, de se détacher de la rancune et de la haine, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, pour te prier, Seigneur Dieu, d'augmenter notre foi, Seigneur. Ô Seigneur, notre foi en ta capacité de changer le mal que nous avons vécu en bien. Oui, Jésus, viens par ton Saint-Esprit, Seigneur, change notre perspective. Change notre perspective, Seigneur. Nous voulons laisser derrière nous, Seigneur Dieu, ces mensonges de l'ennemi qui nous disent qu'on est sans valeur. Ces mensonges de l'ennemi qui disent qu'on a été rendu incapable parce qu'on a vécu dans le passé. Seigneur, en toi, tout n'est que rédemption. En toi, Seigneur Dieu, tout est utile pour l'avancement de ton royaume. Et donc, nous présentons devant toi. Oui, nous nous présentons devant toi avec nos difficultés. Nous nous présentons devant toi, Seigneur Dieu, avec nos souffrances. Et nous disons, Seigneur, utilise-nous comme tu le fais pour David, comme tu le fais pour cet autre homme, William Cooper, plus tard. Utilise-nous, Seigneur. Voici devant toi nos difficultés et les difficultés qu'on continue de vivre aujourd'hui. Seigneur, restaure-nous. Restaure-nous, Jésus. Je vous invite à prier silencieusement dans vos cœurs. Amen.